VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Yaoundé. Bienvenue à notre journal. Agitation au Cameroun anglophone. 20 joueurs de l'équipe de football de l'université de Boya, chef lieu de la province anglophone du Sud-Ouest, enlevés mercredi lors d'une séance d'entraînement, ont été libérés dans la nuit de jeudi à vendredi après avoir subi des mauvais traitements. Les ex-captifs reçoivent actuellement des soins à l'hôpital. D'après les autorités locales, le kidnapping était l'œuvre des sécessionnistes armés. Selon maître Félix Arbor Ngonko, avocat membre d'une ONG de défense des droits de l'homme, les étudiants ont été torturés par leurs ravisseurs. Les médias locaux rapportent également que des rançons ont été payées par les familles des victimes. République démocratique du Congo, nouvelles sanctions américaines contre les autorités de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante de la RDC. Le département du Trésor américain accuse son président Corneille Nangaa, son vice-président Norbert Masengezi et son conseiller Marcelin Mokolo d'une vaste corruption qui a sapé le processus électoral dans leur pays. Des détails avec Eddy Sango.
Sous les sanctions annoncées jeudi par Washington, les actifs des messieurs Nangaa, Masengezi et Mokolo sont gelés. Il est interdit aux Américains d'effectuer des transactions avec eux. Sigol Mandelker, sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, a fait savoir que les sanctions font suite à la corruption persistante des hauts responsables au sein de la CENI, de la RDC et de l'ancien gouvernement Kabila. Et cette corruption s'est faite, selon lui, dans le but d'empêcher et de retarder la préparation d'élections crédibles et inclusives. Les documents citent des détournements de fonds dans des opérations de la CENI depuis 2016. Les trésors américains révèlent notamment que des responsables de la CENI ont gonflé des 100 millions de dollars les coûts du contrat de la machine à voter électronique dans le but de s'enrichir sur les fonds excédentaires et aussi de soutenir les coûts des campagnes électorales du candidat Kabila. Ces sanctions tombent alors que des suspicions de corruption ont entaché les élections sénatoriales d'il y a plus d'une semaine. Lundi, le président Félix Tshisekedi a, à l'issue d'une réunion interinstitutionnelle, suspendu l'installation des sénateurs et reporté sine die les scrutins des gouverneurs et vice-gouverneurs. Washington dit soutenir le peuple congolais dans la lutte contre la corruption. Les trois personnalités congolaises visées avec le procureur de la Cour constitutionnelle étaient déjà interdites depuis un mois des séjours en territoire américain.
Génocide de 1994 au Rwanda, le président français Emmanuel Macron, invité par Kigali à participer à la 25e commémoration du génocide rwandais le 7 avril, ne s'y rendra pas finalement. Le chef de l'État français a chargé le député de son parti, La République en marche, Hervé Berville, un orphelin d'origine Tutsi, de le représenter, a annoncé jeudi l'Élysée. Nicolas Sarkozy est le seul président français à s'être rendu au Rwanda en février 2010. Les relations entre la France et le Rwanda ont traversé plusieurs zones de turbulence ces dernières décennies, empoisonnées par la question du rôle joué par Paris lors du génocide de 1994 qui a ciblé en priorité les Tutsis rwandais. L'actuel président du Rwanda, Paul Kagame, a accusé les autorités françaises en 2014 d'avoir participé à ces massacres qui ont fait, selon l'ONU, 800 000 morts. Des accusations rejetées catégoriquement par la France. La lutte contre les djihadistes au Sahel, maintenant au Mali, le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Abdrahmane Babi, venu présenter des condoléances hier à Nioro, dans l'ouest du pays, a été conspué par les familles de militaires tués lors de l'attaque contre Diora, qui a fait un total de 26 morts. Le précédent bilan de la bataille de Diora, le 17 mars, dans le centre du pays, faisait état du décès de 23 militaires. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Tout est parti de l'établissement et la publication de la liste de 26 victimes qui a révolté les femmes de Kati. Si grâce à une médiation d'une journée, la marche des femmes de Kati a pu être annulée, tel n'a pas été le cas à Nioro du Sahel. Nous en avons assez, trop de morts, nos maris, nos enfants, ce sont eux qui meurent à longueur de journée. Ce n'est pas normal, c'est un complot, déclare une veuve de militaire devant le camp de Nioro. Comme elle, plusieurs veuves de militaires en tenue noire et rouge ont manifesté leur colère. C'est surtout les veuves et les orphelins de soldats tombés sur le champ de l'honneur, plus la population de Nioro qui ont refusé l'accès du camp militaire en formant un bouclier humain, nous confie Bakary Semega, un enseignant. Pour lui, l'État doit prendre des dispositions afin de trouver une solution à ces problèmes. Il ajoutera qu'avant l'arrivée de la délégation de Bamako, il y avait une vive tension à la veille au niveau du camp. Le général de brigade Abdramane Babi et les membres de sa délégation ont été obligés de renoncer à leur visite de présentation des condoléances aux familles de soldats savamment assassinés par les ennemis de la paix, conclut Bakary Semega. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Toujours concernant la lutte contre les djihadistes au Sahel, au Burkina Faso, deux personnes, dont le maire de Mankoy, commune rurale située dans la province de Loudal, dans le nord du pays, ont été enlevées jeudi soir par des individus armés. C'est ce qu'a annoncé l'Union pour le Progrès et le Changement, UPC, un parti d'opposition. La région est en proie à des attaques djihadistes récurrentes et selon le communiqué de Rabbi Yameogo, le secrétaire général national de l'UPC, Mamadou Maïga Dimeaou, maire de la commune de Mankoy, élu sous la bannière du parti, a été enlevé le 21 mars 2019 avec son chauffeur. Et toujours concernant le Burkina Faso, Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme sur les exactions dans le nord du pays en proie aux attaques djihadistes. Dans un rapport publié ce vendredi, l'ONG de défense des droits humains basée à New York pointe du doigt les exécutions sommaires commises à la fois par des djihadistes et les forces armées burkinabées et dont sont victimes les populations civiles. Yacouba Ouedraogo a joint Corinne Doufka, directrice exécutive à Human Rights Watch, chargée de l'Afrique de l'Ouest, qui est l'auteur de l'enquête.
Je faisais une mission à Ouagadougou pendant le mois de janvier et j'ai documenté les exactions, à peu près 42 exécutions commises pour le force djihadiste et 116 pour le force de l'ordre.
Quelles sont les personnes que vous avez interviewées pour documenter tout cela?
On avait parlé avec 92 témoins total et 61 c'était les témoins directs des exactions qu'on avait documentées.
Quand vous dites témoins directs des exactions, des gens qui ont survécu à des attaques?
Exactement. C'était très difficile que moi déplace sur la zone concernée, qui était la région du Sahel. Donc, on a fait déplacer les gens pour venir à Ouagadougou. Les témoins sont venus de 32 hameaux, villes et villages.
Est-ce les forces armées burkinabais ou les djihadistes qui sont auteurs présumés de ces exactions-là?
Pour les djihadistes, on a documenté 42 civils subconnus d'avoir collaboré avec le gouvernement qui était exécuté pour les djihadistes. Ils ont enlevé et intimidé les leaders locaux, piégé le village, surtout les animaux. Aussi, ils ont fait la réquisition des ambulances et ils ont fait l'interruption des campagnes de vaccination des animaux.
Vous dites que vous avez fait venir des gens du nord du Burkina à Ouagadougou, dans la capitale, pour témoigner. Est-ce que vous ne craignez pas quant à la crédibilité de ces témoignages-là?
Pour la plupart des incidents, on a parlé avec plusieurs témoins. Ils ont donné les informations très détaillées. C'est avec les détails et la triangulation qui donne aussi la crédibilité de l'incident. Plusieurs témoins ont donné l'information des exactions commises pour les deux côtés. Donc ça aussi donne la crédibilité à l'information.
On sait que pour les djihadistes, c'est difficile, sinon impossible. Mais est-ce que vous avez approché les forces armées burkinabées pour en savoir davantage?
On a documenté 116 exécutions présumées commises pour les forces de l'ordre, dont 19 incidents. Dans les incidents, le genre décrit comme la dernière fois que le suspect était vous, était sous la garde de la force de l'ordre et la prochaine fois qu'ils étaient vous, c'était mort. On a partagé nos conclusions et aussi les recommandations avec plusieurs personnes dans le gouvernement burkinabé, parmi eux certains membres de la force de l'ordre et aussi le ministre des Défenses m'a écrit une lettre le 18 mars dans laquelle il a promis d'enquêter les incidents contenus dans notre rapport.
Est-ce que vous êtes confiant quant à la suite que le Burkina, le gouvernement burkinabé va donner à ce rapport-là?
On attend, parce que c'est très important, parce qu'on avait remarqué que les leaders communautaires des différents groupes ethniques se sont dit préoccupés que les abus commis pour la force de sécurité poussaient les habitants à joindre les rangs des islamistes armés.
Corinne Doufka, directrice exécutive à Human Rights Watch, chargée de l'Afrique de l'Ouest. Elle était jointe ici même à Washington. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.